Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, nous vous proposons maintenant le verset 214 de la sainte sourate Al-Baqara. Notre frère Mouradam vous en donne la lecture chantée. Vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset rappelle les épreuves que l'homme a à subir avant d'être sauvé grâce à l'appel du messager.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَ والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر اللَّهِ قَرِيبٌ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Pensez-vous vraiment entrer au paradis sans qu'il vous soit arrivé, comme à ceux qui furent avant vous? Rigueur et détresse les avaient touchés, et ils furent secoués jusqu'à ce que le messager, et avec lui, ceux qui avaient cru se fussent écriés. À quand le secours de Dieu? Quoi? Le secours de Dieu n'est-il pas proche, vraiment ?
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver en ce dimanche 11 juillet 2021. J'ai le plaisir de vous présenter le journal suivi d'un commentaire politique. Contre-attaque éclair d'Ansar Allah, les États-Unis en ont le souffle coupé. Vous aurez ensuite la seconde partie de l'émission. Merci de votre écoute. Au sommaire de ce journal, soutien aux terroristes de l'OMK, les complexes anti-iraniens alimentent l'hypocrisie honteuse de l'Occident, déclaration de Téhéran. Les forces américaines ont essuyé des tirs dans la province de Deir ez-Zor à l'est de la Syrie. Et puis 420 démolitions de maisons par Israël, seul pour l'année 2021, reconnaît l'ONU. C'était les principaux titres que nous allons aussi développer dans ce journal. Bienvenue à tous. L'Iran arbitra la base conjointe de sécurité maritime de 36 pays riverains de l'océan Indien. Le port de Chabahar, au sud-est de l'Iran, logera la base permanente de la sécurité maritime de 36 pays riverains de l'océan Indien, a déclaré le commandant de la marine iranienne. Dans une interview accordée à la chaîne première de la télévision iranienne, l'amiral Hossein Khanzadi a annoncé que d'après les mesures prises au sein de la 7e édition du symposium naval de l'océan Indien, le port iranien de Chabahar, au bord de la mer d'Oman, est sélectionné pour loger la base permanente de la sécurité maritime de 36 pays riverains de l'océan Indien. L'Iran a convoqué l'ambassadrice Slovénie à Téhéran pour protester fermement contre la participation du premier ministre du pays à une réunion virtuelle d'une milice terroriste, Mujahedin Khalq, OMK. Le ministère iranien des Affaires étrangères a condamné les propos anti-iraniens du premier ministre Janez Jansa lors du rendez-vous annuel de l'organisation terroriste OMK, les qualifiant de faux, d'inacceptable et de non diplomatique. Le ministère a déclaré que soutenir un groupe terroriste constitue une violation de la Charte des Nations Unies et des normes internationales. La diplomatie iranienne avait auparavant qualifié la réunion de cirque. Téhéran a déclaré que la présence de personnalités comme Jansa et l'ancien secrétaire d'État américain Mike Pompeo était une hypocrisie honteuse de la part de l'Occident. Téhéran dénonce également le soutien des pays occidentaux et leur participation à la réunion annuelle de groupes terroristes de l'organisation Mujahedin Khalq, OMK. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a déclaré que l'OMK est un groupuscule terroriste qui a le sang du peuple iranien sur les mains. Saïd Khatibzadeh a critiqué les hommes politiques occidentaux, dont l'ancien secrétaire d'État américain Mike Pompeo, pour s'être vendu à un cirque organisé en Europe. Il a accusé l'Occident d'une hypocrisie honteuse qui puise ses racines dans une soif insatiable d'argent et une hystérie anti-iranienne. La réunion virtuelle de 3 jours de l'OMK, qui a commencé à Paris samedi, est suivie par Pompeo et plusieurs législateurs américains, ainsi que le premier ministre slovène, je vous disais, Janez Janša. Chaque année, le rendez-vous rassemble des délégués à l'assaut des pays par le groupe terroriste. L'OMK, qui est très honni en Iran, a mené des campagnes d'assassinats et des attaques sanglantes contre les Iraniens depuis la révolution islamique iranienne de 1979. L'actualité régionale avec la Syrie. Les forces américaines ont essuyé des tirs dans la province de Deir ez-Zor, à l'est de la Syrie. Un moniteur de guerre a déclaré qu'un obus de mortier avait atterri dans le champ de gaz de Conico, où sont stationnées des troupes américaines. Un responsable militaire américain a déclaré que l'incident n'avait fait ni victime ni dégâts. Pour l'instant, aucun groupe n'a revendiqué la responsabilité de l'attaque. À la suite des frappes aériennes américaines du mois dernier contre des groupes de résistance à la frontière irako-syrienne, les troupes américaines ont récemment été prises pour cible en Syrie. À noter que Washington n'a obtenu aucune autorisation de Damas pour déployer des troupes en Syrie. Le gouvernement syrien a dénoncé à maintes reprises la prise de contrôle par les États-Unis des champs pétroliers du pays. Sachez d'autre part que la Syrie a salué l'adoption d'une résolution par les Nations Unies pour le maintien de l'aide humanitaire dans le pays via la Turquie. Le ministre syrien des Affaires étrangères a qualifié la résolution de réussite, affirmant toutefois qu'elle implique tous les aspects que les pays occidentaux ont refusé d'inclure. Faisal Mekdad a souligné que l'acheminement de l'aide doit avoir lieu depuis l'intérieur de la Syrie et pas seulement par les postes frontaliers. Il a déclaré que la résolution permet également à la Syrie d'être au courant de tout ce qui entre dans le pays et de la destination de l'aide, ce qui rend difficile pour les pays occidentaux de fournir des armes aux terroristes. Vendredi, le Conseil de sécurité de l'ONU a étendu ses activités d'aide aux postes frontières de Bab el-Hawa avec la Turquie, par lequel des équipements de première nécessité parviennent à la Syrie. Le mouvement de la résistance islamique de la Palestine, Hamas, a appelé les Palestiniens à continuer de protester contre les plans racistes d'Israël, y compris sa politique d'accaparement des terres. Le Hamas a déclaré que la résistance et les manifestations aideraient à déjouer les complots expansionnistes d'Israël. Les propos interviennent alors que les forces israéliennes ont attaqué samedi des Palestiniens qui protestaient contre un avant-poste de la colonie israélienne près de la ville de Beïta en Cisjordanie occupée. Le Croissant Rouge palestinien a déclaré que des dizaines de manifestants palestiniens avaient été blessés dans l'assaut. La dite colonie s'est transformée en un foyer d'affrontement opposant les colons extrémistes soutenus par les forces du régime aux Palestiniens. Enfin, le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires indique que rien que pour la seule année en cours 2021, Israël a démoli plus de 420 maisons palestiniennes. L'agence de l'ONU a déclaré dans un rapport que le nombre comprenait 130 structures palestiniennes financées par des donateurs dans la Cisjordanie occupée. Il a également déclaré qu'auprès de 600 personnes, dont quelques 320 enfants, ont été déplacés en raison des démolitions et des saisies de maisons palestiniennes. Fin de ce journal. Merci infiniment de votre attention. Dans quelques instants, notre commentaire politique. Restez avec nous. Merci. Contre-attaque éclair d'un Sarallah, les États-Unis en ont le souffle coupé. Énième défaite des officiers US OTAN face à un Sarallah. Moins d'une semaine après que l'axe US OTAN et leurs acolytes golfiens eurent tenté de sauver ce qui pourrait encore l'être un Maharib, avant que celle-ci ne tombe entièrement entre les mains d'un Sarallah qui a royalement pris le contrôle de son ciel, non seulement en envoyant presque tous les jours et jusqu'à très récemment ses nuées de drones ou ses missiles abattre la flotte aérienne F-15 saoudien aux bases aériennes de Khamis Mouchaït et Dabha, et en réduisant ainsi l'intensité de la campagne aérienne visant Ma'arib, mais encore en déployant dans le ciel de cette province stratégique des missiles intercepteurs parfaitement inconnus qui ont à deux reprises, fin juin, intercepté et abattu Dosqan Eagle en impliquant une méthode d'interception parfaitement inuline, l'Amérique se trouve dans l'impasse. Al-Baïda, province limitrophe de Ma'arib, les stratèges de pacotille US en Bretagne ont cru pouvoir refaire le coup syrien via un déploiement massif d'Al-Qaïda d'origine syro-irakienne, Hayat Tahrir al-Sham et compagnie, que Riyad a embarqué massivement à bord des bateaux à destination du Yémen, une fois transité depuis le point de passage Koweïto irakien. C'était sans compter avec ce soldat stratège inné qu'est tout combattant aussi et qui a la victoire et gain militaire dans le sang. La contre-attaque d'Ansar Allah contre cette opération de diversion que pilotent les meilleurs commandants de l'US Army et de la Royal Army a été plus que fulgurante, soutenue par les tribus de la région et les habitants d'Al-Baïda. Ansar Allah ont repris le contrôle d'Al-Zahir, mettons un terme à la victoire imaginaire de Riyad, qui cherche à Al-Baïda noyer son chagrin d'avoir définitivement perdu Ma'arib. Mais au-delà de Riyad, c'est le Pentagone qui en a eu pour ses grades, lui qui use et abuse d'un outil de guerre totalement épuisé du nom de terrorisme. La tactique d'Ansar Allah est bien connue et pourtant le camp d'en face ne peut rien contre. Il laisse l'ennemi avancer avant de passer de façon tonitruante à la contre-offensive et de reprendre en un 4 de tour le terrain perdu. L'opération a commencé depuis 4 axes, des dizaines de bases utilisées par des groupes takfiristes comme camps et usines de fabrication d'engins explosifs improvisés ont été nettoyées de la présence des mercenaires, a-t-on appris de la chaîne d'information yéménite Al-Masira. D'importants dégâts ont été infligés aux terroristes au cours de cette opération spectaculaire. Le quotidien libanais Al-Akhbar souligne « La joie de Riyad et de Washington n'a pas duré longtemps car la ville d'Al-Zahir est à Al-Baïda et aux mains des forces d'Osana. La coalition n'a pas réussi à aplanir le terrain dans le gouvernorat d'Al-Baïda en faveur des milices qui lui sont fidèles, en dépit de la réactivation d'Al-Qaïda sur ce front, précise le journal. Le gouvernorat d'Al-Baïda au Yémen revêt d'une importance stratégique car il est situé aux frontières de 8 gouvernorats, dont le gouvernorat pétrolier de Ma'arib. 80 mercenaires et d'éléments d'Al-Qaïda ont été tués ou blessés la semaine dernière dans 2 opérations militaires distinctes de l'armée d'Ansar Allah à Al-Baïda. Le porte-parole du gouvernement de salut national et ministre de l'information, Daif Allah al-Shami, a affirmé que le faux slogan de paix derrière lequel se cache la coalition menée par les États-Unis n'est rien d'autre qu'un signe de tromperie et un moyen de mettre en œuvre son programme de suppression et de domination des nations. Les États-Unis sont derrière l'opération à Al-Zahir. Ils prétendent travailler pour la paix au Yémen. La victoire d'Ansar Allah a coupé le souffle aux caïdistes qui, bien qu'aguerris, n'avaient jamais vu de combattants pareils. Abdul Wahab al-Hamikani, un chef de guerre d'Al-Qaïda, reconnu dans un tweet que ce groupe avait perdu contre l'armée Ansar Allah. Les forces de Sana'a ont réussi à se rendre maître du front d'Al-Zahir. Nos hommes ont été contraints de se replier sur leur position antérieure, a-t-il reconnu. Mais à quoi jouent les Américains au juste? Il est vrai que les États-Unis et d'autres puissances pétrolivores l'accompagner dans cette équipée guerrière anti-Yémen perdue d'avance ne croit plus pouvoir préserver Ma'arib qui va tomber d'une manière ou d'une autre. Ce qu'il cherche surtout à sauver, c'est Mahra, située à l'est du Yémen sur les frontières avec Oman, et dont les gisements pétroliers sont depuis longtemps détournés par l'axe Occident-Arabie. En décembre, Trump a fait venir 600 marines US dans la province. En dépit de l'opposition de la population, il a fait très rapidement étendre l'aéroport militaire d'Al-Gaïza sous contrôle de Riyad. Les Saoudiens y déploient des hélicos militaires et des geôles ou détenir tout yéménite opposé à l'occupation de la province. C'est là que les États-Unis contrôlent le ciel du Yémen, le trafic d'avions et de drones. Al-Baïda et ses terroristes, caïdistes, auraient dû créer un rempart contre l'éventuelle avancée de la résistance vers Al-Mahra une fois Ma'arib libérée. Le pari est déjà perdu.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission, le débat. Des attaques contre des positions militaires américaines en Irak et en Syrie se sont multipliées ces derniers jours. En Irak, ces derniers jours, plusieurs attaques ont été menées contre des envois militaires et logistiques américains. La base d'Aïn al-Assad dans la province d'Anambar aussi, qui abrite en fait les troupes américaines, a été en fait une nouvelle fois visée par des roquettes, des missiles et également des drones. Phénomène nouveau dans ces récents développements relatifs, si vous voulez, à ces attaques menées contre des positions militaires américaines en Irak et en Syrie, c'est en fait de l'utilisation, si vous voulez, des drones de combat. En Irak, la résistance des Irakiennes souligne qu'il n'en est pas question pour elles de viser des missions diplomatiques, des endroits diplomatiques en Irak, mais la résistance souligne qu'elle va poursuivre son combat jusqu'au retrait du dernier soldat américain en Irak. C'est-à-dire, en fait, le peuple irakien et syrien disent ne pas vouloir tolérer désormais la présence militaire américaine dans ces deux pays. Et c'est dans le cadre de cette même logique que des attaques ont été menées contre des positions américaines en Syrie et plus précisément dans l'est de la Syrie. On va vous en parler dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui avec deux invités. J'ai en ligne avec moi depuis Damas, un juriste français spécialiste des questions internationales, Maître Arnaud Develet. Maître Develet, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Notre liaison avec Damas n'est pas encore établie. Et j'ai en fait un autre juriste spécialiste français des questions internationales avec moi pour cette émission depuis Alsace. Il s'agit de Maître André Chamy. Maître Chamy, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour, merci pour votre invitation et je vous salue tous avec vos spectateurs.
Merci beaucoup, Maître Chamy. Maître Chamy, je viens de lancer le sujet de vous suivez ces jours-ci de près les évolutions relatives, si vous voulez, à ces multiplications des attaques contre des troupes d'occupation américaines en Irak ancien. Comment peut-on évaluer des événements? Quelle en est la portée et l'importance?
La présence de toute force étrangère dans quelque pays que ce soit a, je dirais, vocation à disparaître parce que c'est le principe fondamental du droit international, c'est le droit à chaque peuple à une autodétermination, c'est-à-dire de décider de son propre sort, du sort de son territoire, du sort de sa population. Ça, c'est un principe immuable. à partir du moment où les Américains ont pris le risque de se déplacer et de venir s'installer sur le territoire irakien et le territoire syrien sans y être autorisés par les autorités du pays, et en tout cas leur légitimité a purement et simplement disparu, notamment en Irak, à travers le vote de l'Assemblée irakienne, les invitant à quitter immédiatement et sans délai du territoire irakien, il n'y avait plus de place pour une quelconque présence américaine sur le territoire irakien. Pour ce qui concerne le territoire syrien, c'est encore pire, puisque c'est une présence illicite, c'est une sorte d'invasion par l'est du pays, en profitant de cette porosité de frontières entre l'Irak et la Syrie, avec l'aide des Turcs, bien entendu, pour s'y implanter, afin de créer plusieurs bases, dans le but de réaliser leur propre projet pour toute la région, c'est-à-dire la déstabilisation et la création du chaos qui a été tellement rappelé depuis l'époque de George Bush fils avec le Condoleezza Rice. Et ce projet de chaos dans la région est toujours en place parce que les Américains ont opté pour deux tactiques, si vous voulez, la tactique de la guerre frontale et la tactique de ce qu'on appelle la guerre douce, c'est-à-dire c'était promu par Obama. Mais les deux ont toujours le même objectif parce que les Américains n'ont jamais changé de projet pour la région. Leur projet est de déstabiliser la région pour plusieurs raisons. La première, c'est d'avoir toujours de la puissance sur l'ensemble de ces territoires-là pour que ces territoires restent sous leur domination et constituent pour eux une base de départ pour toute implantation et pour toute autre attaque concernant les ennemis que eux considèrent comme leurs ennemis dans la région, particulièrement les membres, si je veux dire, de l'axe de la résistance, à commencer par la République islamique d'Iran, et même au-delà, vous avez le Hezbollah, vous avez la Syrie, vous avez la résistance palestinienne, vous avez la résistance libanaise, évidemment, mais pourquoi pas le Yémen, puisqu'on voit ce qui se passe au Yémen à travers l'aide apportée par les Occidentaux aux Saoudiens et leurs alliés. C'est-à-dire que c'est un projet fondamental pour les Américains, pour leur stratégie dans la région. Mais en même temps, pour assurer la protection de leurs alliés privilégiés, en l'occurrence l'entité sioniste, parce que l'entité sioniste aujourd'hui se trouve réellement menacée sur le plan existentiel, et cela se dit de plus en plus dans la bouche de beaucoup d'analystes sionistes, et qui démontre évidemment qu'il y a une crainte concernant l'avenir de cette entité dans la région. Et pour cela, il fallait donc créer une présence, et cette présence aujourd'hui se trouve elle-même menacée et n'arrive plus à assurer la sécurité des forces la composant, pour la raison simple, parce que ces forces n'arrivent plus à dissuader toute attaque, parce que si vous venez en tant que gendarme et le gendarme ne fait plus peur, ce gendarme n'a plus d'intérêt de rester sur place. Et aujourd'hui, évidemment, les Américains se trouvent dans cette situation-là. C'est-à-dire, c'est le gendarme, mais qui ne fait plus peur, et le gendarme qui se trouve aujourd'hui attaqué dans toutes ses positions, y compris dans des bases plutôt bien protégées, que ce soit à Ain al-Asad ou les autres bases, et que ce soit du côté syrien ou du côté irakien, c'est le même, c'est la même difficulté qui est posée, pour ne pas dire, c'est le même danger qui les guette. Et à partir de là, bah, évidemment, les Américains doivent décider tôt ou tard de quitter définitivement cette zone-là. La question qui se pose également, c'est que les Américains ont provoqué en quelque sorte l'accélération de ce départ à travers l'assassinat de Général Soleimani et de M. El-Mandef, parce que là, c'était la goutte qui a fait déborder le vase, c'est-à-dire aujourd'hui, plus personne ne supporte cette présence parce que cet assassinat abject et criminel et inacceptable a conduit l'ensemble de l'acte de la résistance à s'élever en rang renforcé pour lutter contre la présence américaine et le considérer comme ennemi sur le territoire où ses forces se trouvent. Je rajouterai un mot et j'en aurai terminé. La question qui se pose aujourd'hui, c'est que s'il devait se retirer comme il l'annonce, pourquoi vont-elles se retirer, en tout cas se replier vers la Jordanie? Est-ce que c'est un repli, encore une fois, tactique, c'est-à-dire pour mieux se renforcer, avoir une sorte de protection grâce aux Jordaniens et plus particulièrement au roi de Jordanie, qui est l'allié privilégié des États-Unis et de la région, ou bien c'est pour préparer un départ beaucoup plus important de toute la zone. Pour moi, évidemment, eux, ils croient que c'est un repli tactique, et ça c'est mon analyse, c'est-à-dire on se retire, mais on reste proche de la zone où on peut intervenir, avec les moyens dont ils disposent, que ce soit les drones, les missiles, etc. C'est-à-dire si jamais eux, ils considèrent qu'il y a à tel endroit ou dans quelle zone ils doivent intervenir militairement, ils ont les moyens d'envoyer leurs avions, leurs drones, etc. Et ça, évidemment, il faut le craindre. En revanche, si c'est un repli définitif parce qu'ils préparent la phase d'après, qui n'est pas exclu en plus, c'est-à-dire remodifier leurs alliances dans la région, en tout cas leur traitement de cette zone, et ne pas considérer qu'ils ont besoin de bases pour protéger leurs intérêts, évidemment, bon, là, il y aura, à mon sens, un nouveau destin de la région, c'est-à-dire quel sera le rôle de l'entité sioniste, est-ce que l'entité sioniste doit rester ou disparaître, est-ce que les relations avec l'axe de la résistance doivent être considérées comme des relations tendues ou bien on les considère comme des interlocuteurs avec lesquels on peut négocier, mais dans quel cadre, pour obtenir quoi et pour aboutir à quoi, ça c'est à mon avis, ça c'est également une question qui devrait être posée par les Américains, et à mon avis les Américains, je dirais pragmatiques comme ils le sont, parce qu'ils ont un côté pragmatique, sinon opportuniste, ils doivent penser à cette question-là, et un certain nombre d'analystes américains se posent ces questions-là en disant, à partir du moment où on considère l'Iran comme un interlocuteur, comme un véritable vis-à-vis, qui constitue en soi une force régionale et à vocation internationale, on peut traiter avec, on peut négocier avec, et avec ce moment-là, on peut avoir des traités de non-agression, mais ces traités préservent les intérêts des uns et des autres, sans pour autant qu'il y ait un rapport de domination et sans reconnaissance que les Américains aient une sorte de prééminence par rapport aux peuples de la région, c'est-à-dire qu'ils doivent dominer et obtenir ce qu'ils veulent, quand ils veulent, comme c'est là est le cas actuellement, et plus particulièrement dans les pays du Golfe et bien dans bien d'autres zones. Voilà pour l'instant ce qui peut se dessiner. Nous verrons dans les prochains jours quelles sont les véritables intentions des Américains, mais les deux thèses existent et sont sur la table, et il ne faut pas les négliger, je dirais, dans la réflexion par rapport à ce départ qui s'annonce et qui prend peut-être du temps, mais finalement finira par arriver.
Merci beaucoup. En fait, maître Arnaud de Volley de reste injoignable et nous allons partir tout de suite à Toulouse pour rejoindre un spécialiste français des questions internationales, analyste politique et quelqu'un qui connaît très bien en fait les questions relatives au Moyen-Orient, tout comme d'ailleurs maître André Chamy. Il s'agit de Pierre Dortillier. Monsieur Dortillier, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Avec grand plaisir. Bonjour, monsieur. Mes salutations à vos auditeurs et merci à maître Chamy.
Merci beaucoup. Monsieur Dortillier, venez d'entendre en fait les explications de maître André Chamy. La présence militaire illégitime américaine est contestée, remise en cause, attaquée tant en Irak qu'en Syrie. Et dans le même temps, en fait, les États-Unis cherchent, si vous voulez, recourir, si vous voulez, à de nouvelles ruses, de nouvelles tactiques. Par exemple, le redéploiement, c'est l'un des scénarios évoqués tout à l'heure par maître André Chamy, le redéploiement, si vous voulez, des troupes américaines, par exemple, de l'Irak vers la Jordanie. Votre analyse, s'il vous plaît.
Eh bien, j'ai suivi très attentivement, comme vos auditeurs, le bel exposé de maître Chamy. Je trouve que il faut, tirer des conclusions politiques. La guerre menée, la stratégie américaine, ne vise pas comme une stratégie ordinaire à affronter un adversaire pour l'éliminer ou lui imposer sa volonté. C'est ainsi qu'on définit une guerre de façon classique. Mais là, il s'agit au contraire d'une guerre, je dirais, de caractère entre guillemets révolutionnaire. C'est-à-dire qu'il s'agit de maintenir sa présence en affectant, c'est-à-dire en faisant mine, d'être sans cesse menacé, d'être sur la défensive. Or, quel est le bénéfice que veulent tirer les Américains et ceux qui soutiennent entités sionistes et autres, c'est d'apparaître comme des victimes, comme des gens affaiblis sur place, alors qu'en réalité, ils ne font par là que se renforcer dans le temps. C'est-à-dire qu'ils veulent plonger la région dans une insécurité, je dirais, permanente, une insécurité à long terme, pour empêcher justement qu'il y ait des relations normales entre les États et par là même éviter de prendre tout engagement de caractère, disons, politique, de caractère ordinaire, disons, comme cela se fait dans la diplomatie. C'est donc une sorte de guerre qui répond, aujourd'hui, qui répond à ce que, dans le vocabulaire trotskiste ou marxiste, par exemple, qui est celui des conservateurs, des néoconservateurs américains, on appelle la révolution permanente. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une, non pas d'une guerre permanente, elle n'a pas de sens, mais disons d'une prolongation des hostilités. Alors, vis-à-vis de l'opinion américaine, on dit, eh bien, nous sommes menacés sur place, nous sommes très affaiblis, le Moyen-Orient risque de s'embraser, etc. Alors, à ce moment-là, on appelle donc une continuation de la guerre. Et comme celle-ci, bien sûr, ne peut pas être, n'est pas une véritable guerre avec un adversaire déclaré qu'il s'agit d'éliminer. Non, c'est un adversaire, disons, qu'il s'agit de maintenir pour le faire souffrir en permanence. Je m'explique. Il s'agit, disons, de jouer un rôle de policier à l'intérieur du Proche-Orient en manifestant sa force et en grande partie, au besoin, disons, en montrant qu'on est affaibli par ceux même que l'on veut combattre et écraser. C'est une politique très vicieuse et qui a été mise, bien sûr, en œuvre par des politiciens américains. On peut appeler américano-sioniste, en effet, c'est tout à fait dans ce cadre-là. Et c'est une guerre, à notre avis, à notre humble avis, qui est appelée à continuer. C'est-à-dire qu'il faut que les États, à notre avis, les États, c'est-à-dire le Liban, la Syrie, votre patrie, l'Iran, s'adaptent à cette nouvelle hostilité. C'est-à-dire que ne pas espérer que l'on puisse du jour au lendemain aboutir à des accords comme cela se faisait dans la diplomatie ordinaire. Il faut, disons, que les États eux-mêmes, que je viens de désigner, puissent se renforcer intérieurement et surtout, c'est pas militairement, politiquement. Il faut qu'il y ait justement un abaissement des tensions à l'intérieur de ces États et bien sûr aussi une sorte de fortification, si je puis dire, économique. Car n'oubliez pas que si les Américains font ceci, c'est qu'après avoir, par exemple, porté des coups très sévères au Liban du point de vue économique. Et alors, je crois donc qu'on s'engage dans une guerre à très longue durée. Je ne sais pas comment on pourra le désigner autrement que par des guerres, disons, ce sont des guerres de caractère, entre guillemets, révolutionnaire, mais pas dans le sens de l'émancipation des peuples, dans le sens de l'affaiblissement des peuples. Voilà exactement, disons, ce, à votre avis, dont il faut bien prendre conscience, voyez-vous. Nous avons affaire à des gens qui prétendent être dépassés, je parle des Américains et de ce Pentagone, dépassés par leurs opérations, alors qu'en réalité, ils sont là pour introduire, maintenir, un minimum de désordre pour assurer justement une présence permanente. Je crois que dans l'histoire, c'est la première fois que l'on voit une telle opération. Il ne faut pas le mettre sur le compte de la technique moderne, il faut le mettre sur le compte d'une mentalité, disons, qui est effrayante, parce qu'elle elle consiste non pas à faire s'affronter des peuples, mais à présenter des peuples, ces peuples d'Orient, comme des ennemis réels et potentiels, comme une sorte de guerre de 100 ans, si vous voulez. Et je crois que là-dessus, la véritable réponse à cela, c'est pas seulement une réponse militaire, c'est aussi une réponse politique, en armant, voyez-vous, en fortifiant justement la conscience politique de toutes les générations du Proche-Orient, c'est-à-dire en Iran, en Syrie, au Liban, etc. Il faut que, justement, comprendre qu'il s'agit là d'une guerre matérielle et aussi d'une guerre politique, d'une guerre spirituelle.
Maître André Chamiche, en fait, vous l'avez dit que, en fait, l'objectif de cette politique de déstabilisation, de création du chaos dans la région, c'est également, si vous voulez, de soutenir le régime israélien, d'assurer les intérêts de ce régime dans la région. Vous avez en fait également évoqué en quelque sorte le rôle joué par le régime sioniste dans tous ces événements en ce qui concerne en fait la politique américaine. Maître André Deschamis, a jugé par des informations, le Premier ministre israélien a rencontré tout récemment secrètement le roi de Jordanie, va, si vous voulez, rencontrer le président égyptien avant de partir pour Washington et rencontrer le président américain Joe Biden. Comment vous l'expliquez?
C'est pas, à mon sens, c'est, encore une fois, je dirais, une non-info, parce que les rencontres entre les différents responsables israéliens et jordaniens, marocains, égyptiens, moi, je les appelle le pacte des traîtres, c'est-à-dire ce sont des gens qui ont comploté contre leur propre population et contre même l'ensemble de la population de la région. Parce que on ne peut pas pactiser avec un cancer. Et aujourd'hui, ils sont tellement mouillés dans leur pacte avec le cancer qu'aujourd'hui, ils ne savent pas comment faire, de toute façon. Même s'ils devaient aujourd'hui décider de dire j'arrête ou je me retire. Mais ils n'en ont même pas l'intention. Et c'est la raison pour laquelle ils ne peuvent que persévérer dans leur complot, dans leur complot contre cette région-là et contre les peuples de la région. Évidemment, ce complot s'amplifie par rapport à ce qui s'est passé dernièrement en Palestine. Il y a quelque chose qui est fondamental qui a changé. La première, c'est la puissance de la résistance depuis Gaza. Mais le réveil des territoires occupés, notamment, qui étaient en quelque sorte dominés par l'autorité palestinienne, on croyait qu'il a été domestiqué par l'autorité palestinienne qui avait des rapports très particuliers avec l'entité sioniste, en fournissant toutes les informations, y compris les renseignements sur les activistes palestiniens qui auraient un quelconque rôle dans la résistance. Et là, évidemment, c'est l'autorité palestinienne qui est mise en échec et c'est la raison pour laquelle la rue palestinienne se réveille contre cette autorité. Et troisièmement, ce qui est beaucoup plus grave pour l'entité sioniste, c'est la rue de ce qu'on appelait les Palestiniens de 48, c'est-à-dire ceux qu'on croyait avoir domestiqués. Et on trouve qu'aujourd'hui, ces Palestiniens n'ont jamais été domestiqués. Ils ont toujours la résistance en eux, leur identité nationale est toujours en eux, et ils n'attendaient qu'une occasion, et l'occasion commence à se manifester tout doucement mais sûrement, et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui vous entendez dire au sein du régime sioniste que le Hezbollah est en train de recruter en territoire israélien. On n'aurait jamais entendu ça il n'y a même pas 5 ans, il n'y a même pas 10 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils réalisent qu'il y a des sources de renseignement qui disent qu'il y a quelque chose qui se réveille dans cette zone-là et qui, bien entendu, qui vont chercher appui auprès de la résistance en général et plus particulièrement auprès de Hezbollah. Et c'est le danger dont j'ai toujours parlé, c'est-à-dire la fissuration de l'intérieur de l'entité sioniste qui aboutira à son effondrement, sinon à sa disparition. Et nous dit ça, c'est-à-dire la marche a commencé et elle ne pourra plus s'arrêter. Et c'est ça, à mon sens, qui a réveillé l'ensemble de ceux qui ont comploté, parce que la chute de l'entité sioniste, c'est la chute de tous ces régimes, parce que encore une fois, leur raison d'être, leur raison de vivre, c'est d'être aux côtés de l'entité sioniste. Si l'entité sioniste n'existait plus, quel rôle ils auraient? Rien, parce que l'Égyptien... Eh bien entendu, qu'est-ce qu'il va dire au peuple égyptien que depuis les accords de Camp David jusqu'à maintenant, on a voulu faire la paix avec Israël, on a eu misère, pauvreté, et bien entendu, il n'y a jamais
merci
eu paix.
Beaucoup.
Et finalement, celui avec lequel on a pactisé, il s'est effondré. Les Jordaniens vont dire la même chose, en tout cas vont faire ce constat, et les Marocains vont dire la même chose, et les autres pays du Golfe qui sont... en ligne de départ pour entamer de grandes relations avec cette entité, qu'est-ce qu'ils vont expliquer au peuple de la région?
Merci beaucoup.
Ils ont financé pour les amadouer, finalement, des finances aujourd'hui ne servent plus à rien parce qu'il y a un vent de liberté qui ne s'arrête plus et qui ne peut plus s'arrêter. Et c'est ça, à mon avis, la grande menace.
Merci.
Et aujourd'hui, les Américains voient tout ça. Ils ne sont pas idiots, ils ont des analyses très affinées, ils ont des présences dans la région, ils ont même toutes les ressources du renseignement sur ce qui se passe en territoire palestinien sous l'égide de l'entité sunnite. Et évidemment, ils doivent anticiper sur l'avenir, comme ils anticipent sur les prochains conflits, parce qu'aujourd'hui, ils sont en course d'armement avec les grandes puissances, que ce soit avec la Chine ou avec la Russie, c'est-à-dire derrière.
Merci beaucoup, monsieur Maître Cham.
Il y a beaucoup de défis, et notamment des défis financiers et économiques, sinon stratégiques. Et là, évidemment, c'est je dirais, les grands enjeux de la région qui sont en train de jouer aujourd'hui.
Merci infiniment, Maître André Chami, d'avoir été avec moi pour cette émission en ligne depuis Alsace. Mes vifs remerciements vont également à M. Pierre Dortiguier, philosophe français spécialiste des questions internationales, qui a été avec moi pour cette émission depuis Toulouse. C'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous souhaite à vous toutes et tous une excellente journée. Je vous dis au revoir, amis, à très bientôt. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission consacrée à l'actualité africaine. Lors de la dernière réunion du Conseil de sécurité de l'ONU, le représentant kényan avait déclaré que la communauté internationale devait impérativement laisser de l'espace à l'Éthiopie pour que le pays puisse gérer ses problèmes au niveau national. En d'autres termes, laisser les Africains gérer leurs problèmes eux-mêmes, cesser les ingérences qui multiplient encore plus les problèmes. La Chine, la Russie, l'Inde ont également montré leur soutien au gouvernement éthiopien. Ces pays ne sont pas les seuls à avoir montré leur soutien à Addis Abeba. La République islamique d'Iran a également exprimé son soutien au gouvernement éthiopien. Réagissant à la nouvelle du cessez-le-feu humanitaire unilatéral du gouvernement éthiopien contre les rebelles terroristes du TPLF, après 8 mois de traque acharnée, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a félicité le peuple et le gouvernement de la République démocratique éthiopienne pour la tenue du 6e tour des élections législatives dans un climat apaisé. Saluant l'action humanitaire du gouvernement éthiopien, il a déclaré que la République islamique d'Iran suit de près le développement politique et militaire en Éthiopie. La décision du gouvernement fédéral d'établir un cessez-le-feu humanitaire le 28 juin 2021 dans le Tigré est un pas dans le sens de la stabilité et du calme. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a également souligné « Nous appelons toutes les parties à soutenir le cessez-le-feu afin d'établir la paix et la sécurité dans la région et de créer des conditions pour que la population retrouve une vie normale ». L'Iran est également préoccupé par un fait d'actualité essentiel concernant l'Afrique, c'est la volonté du régime israélien de se mettre en avant en Afrique. L'Iran est profondément préoccupé par l'intention du régime sioniste de rejoindre l'Union africaine en tant qu'observateur. Répondant à une question sur l'intention du régime sioniste de postuler au poste de membre d'observateur de l'Union africaine, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a exprimé sa profonde préoccupation et la ferme opposition de la République islamique d'Iran à une telle démarche. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a appelé également les États membres de l'Union africaine à démontrer leur détermination politique
adhéré à la cause palestinienne ainsi que d'importantes organisations internationales telles que l'Organisation de la coopération islamique à s'opposer à toute action visant à accorder de l'adhésion ou des postes au régime d'occupation d'Al-Rot. Saïd Khatibzadeh, porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, a ajouté Youssef Al-Ousmane, secrétaire général de l'Organisation de la coopération islamique, dans une lettre au ministre des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran, Mohamed Javad Zarif, tout en exprimant sa gratitude pour l'attachement de la République islamique d'Iran au principe de l'Organisation de la coopération islamique et le soutien de l'Iran à l'action. Les pays islamiques sont en fait solidaires au sujet des questions liées à l'Oumma islamique avec la Palestine sans côte sans tête et sont profondément préoccupés par les nouvelles reçues de certaines sources officielles selon lesquelles le régime sioniste a l'intention de demander un poste d'observateur au sein de l'Union africaine. Il a ajouté que l'établissement d'un poste d'observateur par le régime sioniste au sein de l'Union africaine encouragerait le régime sioniste à poursuivre sa politique coloniale et raciste et à mener des frappes militaires et d'autres crimes contre les Palestiniens. L'Union africaine a menacé d'imposer des mesures punitives nécessaires contre les groupes armés et leurs partisans en raison des activités criminelles récurrentes dans la région des Grands Lacs africains. Cet appel urgent a été lancé par le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine dans un communiqué publié mercredi à l'issue de sa dernière réunion d'ailleurs consacrée à la situation dans la région des Grands Lacs. Le Conseil condamne fermement les crimes odieux, y compris de l'exploitation et le commerce illégaux des ressources naturelles de la région commis par les groupes armés et les forces néfastes qui sévissent dans la région selon le communiqué de l'Union africaine. L'Union africaine a affirmé sa volonté d'imposer des mesures punitives nécessaires, y compris des sanctions ciblées contre ces groupes et tous ceux qui les soutiennent. Le Conseil a en outre encouragé le pays de la région à renforcer leur coopération afin de combattre et d'éradiquer efficacement de toutes les forces et tous les groupes armés néfastes de la région en vue de faire taire les armes en Afrique. Il a souligné la nécessité d'adopter des approches globales et inclusives pour s'attaquer aux causes structurelles profondes des défis auxquels la région est confrontée. Dans le même temps, le bloc panafricain a appelé la communauté internationale à continuer à soutenir les initiatives en cours mises en œuvre par les pays de la région qui visent à éradiquer des groupes armés ainsi qu'à faire face à la situation humanitaire dans la région qui comprend la lutte contre la pandémie de COVID-19. L'ancien président sud-africain Jacob Zuma commence à purger sa peine de prison pour outrage à la justice. L'ancien président sud-africain Jacob Zuma a passé la première nuit de sa peine de 15 mois d'emprisonnement au centre correctionnel d'Escour, indiqué jeudi le porte-parole des services correctionnels. Il a dit qu'en raison des règlements liés à la COVID-19, M. Zuma sera isolé des autres prisonniers pendant 14 jours. Les détenus récemment admis doivent être isolés et sont ensuite transférés dans la section population générale afin de respecter les mesures préventives liées à la COVID-19, a-t-il expliqué. M. Zuma ne sera pas non plus autorisé à recevoir de visiteurs en raison de la pandémie. M. Deinkom Malo, le porte-parole des services correctionnels, a affirmé que toutes les réglementations relatives au processus d'admission seront dûment expliquées aux nouveaux détenus. Les autres prescriptions pertinentes relatives à l'admission et à l'orientation des personnes récemment incarcérées seront également suivies et exécutées, a-t-il poursuivi. M. Zuma a été condamné à 15 mois d'emprisonnement après avoir défié l'ordre de la Cour constitutionnelle qu'il avait contraint à se présenter et à témoigner devant la commission anti-corruption en février. L'UNICEF salue les efforts du Burkina Faso dans la protection des enfants. La directrice des régionales du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Marie-Pierre Poirier, en visite au Burkina Faso, a salué les efforts du pays dans la protection des enfants malgré la situation sécuritaire et sanitaire difficile. Madame Poirier a été reçue par le président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré, qui à son tour a salué l'engagement des Nations Unies à travers l'UNICEF à nos côtés pour donner de meilleures conditions de vie et d'études à nos enfants. La directrice générale de l'UNICEF s'est réjouie des performances du Burkina Faso en matière de vaccination des enfants et de promotion de la santé communautaire qui s'institutionnalise et permet aux communautés de s'engager auprès du gouvernement pour maintenir les services essentiels. Elle a encouragé les autorités à garantir aux enfants une éducation complète tout en soutenant que beaucoup de choses se passaient positivement au Burkina Faso. Eh bien, chers amis, avec cette dernière nouvelle, cette émission s'achève. Merci infiniment de l'avoir suivi. Merci beaucoup pour votre fidélité à la radio francophone iranienne.